Bonjour et bienvenue à tous. Nous continuons notre série d'émissions sur les vertus et les vices, c'est-à-dire sur notre vie chrétienne dans l'Esprit Saint ancré en Jésus-Christ. Nous avons déjà vu les vertus théologales, les vertus cardinales, et nous avons commencé depuis quelques émissions les sept vices capitaux. Vices parce qu'il s'agit de maladies de l'âme, des tendances, des penchants que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous, et capitaux, donc un vice capital, parce qu'ils sont à la tête d'une armée, comme disait Saint Grégoire le Grand, vous vous souvenez peut-être, nous en avons déjà parlé, ils sont comme des généraux en chef qui sont à la tête d'une armée immense, c'est-à-dire ce vice-là nous amène à beaucoup d'autres péchés, plus ou moins graves, bien évidemment. Après l'orgueil, après l'avarice et après l'envie, nous voyons maintenant un autre vice capital, la colère. La colère, appelée aussi en vieux français l'ire. C'est important. L'ire, c'est-à-dire I-R-E. Ça vient du latin ira. Et pourquoi c'est important? C'est un mot aujourd'hui qu'on n'utilise plus. Mais le mot ire vient de la racine qui veut dire frémir, trembler. Ça montre déjà des aspects physiques de la colère. Et le mot colère vient du mot grec utilisé pour la bile, pour le fiel. Selon la mentalité ancienne, vous vous souvenez, quand la médecine était à ses débuts, hein, à l'époque, dans l'Antiquité, on pensait que notre comportement était poussé par les humeurs, c'est-à-dire les humeurs du corps. En ce cas, c'était la bile ou le fiel qui provoquait de la mauvaise humeur ou de la colère. Donc, quand quelqu'un était en colère, on pensait qu'il avait une production excessive de bile. Voilà, pour dire d'où vient le mot colère. Essayons de donner une définition possible à la colère. Une des définitions possibles, c'est « la colère est la réaction de la personne qui éclate face à ce qu'elle perçoit comme une agression, une injustice ou un obstacle à ses envies ». Voilà la définition de colère. Donc, vous voyez bien, c'est une réaction. Donc, pour qu'il y ait colère, normalement, il y a eu quelque chose avant. Une personne qui éclate, donc la colère, c'est quelque chose de soudain, une réaction soudaine, brutale, face à ce qu'elle perçoit comme une agression. Donc, face à ce qu'elle perçoit, ça ne veut pas dire que toute colère vient vraiment d'une agression. Parfois, il n'y a pas eu agression du tout, mais la personne l'a perçue comme telle. Donc, elle perçoit comme une agression ou alors une injustice, tout simplement, même s'il n'y a pas eu agression, ou un obstacle à ses envies. Elle avait envie de quelque chose, de faire, d'être, d'avoir quelque chose. Une autre réalité, une autre personne a fait obstacle et donc elle est en colère. Ces prétendues agressions, injustices ou obstacles aux envies personnelles peuvent venir de trois sources. De l'histoire, donc les circonstances de la vie. J'ai perdu quelqu'un de très cher et je suis en colère, par exemple. Donc ça nous vient de l'histoire. Ça peut venir de la personne elle-même. Par exemple, moi je suis en colère parce que j'aurais envie de me lever du canapé pour aller travailler, mais c'est plus fort que moi, je n'y arrive pas. Donc je suis en colère contre moi-même. Voilà un exemple. Mais le plus souvent, disons la vérité, la colère nous vient des autres personnes. La cause de notre colère, ce sont les autres personnes. Et cette colère, elle peut rester au niveau intérieur du sentiment. On parle donc de passion, ce bouillonnement que nous avons à l'intérieur de nous. Et elle peut aussi se manifester par un comportement extérieur, donc des paroles, des gestes, parfois les deux ensemble, bien évidemment. Alors souvent, ça c'est très important, souvent le premier mouvement de la colère est involontaire. Tout ce qui est involontaire n'est pas péché, parce que pour qu'il y ait péché, pour qu'il y ait vice, pour que du péché naisse le vice, il faut qu'au moins au départ, notre volonté soit engagée librement. Donc, le premier mouvement de la colère est souvent involontaire. De même que mon corps réagit si on me pique avec une aiguille, par exemple, de même, mon esprit peut réagir s'il se sent piqué par un événement ou une personne. Voilà. Si j'approche une aiguille d'un bras, du bras de quelqu'un, cette personne va sursauter, cette personne va s'écarter. Et donc, de même, l'esprit, face aux événements, face aux paroles des autres, face au comportement des autres, peut aussi réagir de façon involontaire. Ce premier mouvement de l'esprit est rarement un péché. Le problème, c'est ce qu'on fera avec. Comme dit saint Paul aux Éphésiens, nous allons peut-être le relire tout à l'heure, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Vous voyez comme saint Paul fait la distinction, « Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le soleil ne se couche sur votre colère. » C'est-à-dire que cette colère ne devienne pas ressentiment, un plan pour des vengeances ou rancune, et haine et tout le reste. Voilà. Pour que la colère donc soit empêchée, il faut deux choses. Il faut que la raison qui la déclenche ne soit pas juste. Par exemple, notre orgueil qui déclenche de la colère, on ne me traite pas comme ça. Une jalousie injuste, je suis envieux, c'est le vice que nous avions abordé la dernière fois. Donc, si la raison qui la déclenche n'est pas juste, elle est empêchée. Ou bien que cette colère soit disproportionnée, démesurée, bien que la raison soit juste. Par exemple, pour un petit truc où tu as raison, tu t'emportes comme une bête sauvage. Je donne un exemple très concret et très fréquent. Il arrive que les parents, qui ont pourtant le devoir de corriger leurs enfants, s'ils voient l'enfant qui ne se porte pas bien, ils ont le devoir de corriger leurs enfants, il arrive que ses parents le fassent de façon disproportionnée à l'action de l'enfant, en déchargeant sur eux leur fatigue de la journée, sur le petit ou les petits, la fatigue de la journée. Donc, voyez bien, pour un petit truc que l'enfant a fait à la maison, une maladresse ou même une faute, le parent le corrige de façon disproportionnée. Là aussi, c'est un péché. Et ici, bien évidemment, dans ces émissions, nous ne parlons pas d'un péché isolé, mais du vice capital de colère. C'est-à-dire d'une faiblesse, d'un mauvais pli, la facilité à se mettre en colère. Peut-être que pour tout et n'importe quoi, et avec des éclats complètement démesurés. C'est de ça qu'il s'agit ici. Quand je parle du vice de colère, c'est vraiment cette facilité à se mettre en colère pour tout, pour n'importe quoi, et avec des éclats complètement démesurés. Là aussi, qu'on se dirait, mais oh là là, pour ça, on a fait tous ces films, on a éclaté de colère pour un rien du tout. On dit, comme pour les autres vices, qu'on est aveuglé par la colère. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu cette expression. Il était aveuglé. Je n'ai vu plus rien. Donc j'étais aveuglé par la colère, comme on pourrait dire pour l'envie, à propos de l'envie, de l'avarice et des autres vices aussi. Hein. On ne veut plus entendre raison. Dans l'iconographie habituelle, ce vice est représenté par le lion, vous voyez très bien. Alors ce vice capital, il est capital car il est à la tête d'autres. Il peut donc nous amener à des péchés très concrets, parfois très graves. L'emportement, le ressentiment, la rancune, la haine, la vengeance, la violence physique, la violence verbale, les insultes, les cris, ou psychologique aussi, la torture psychologique, la violence, la torture tout court, le meurtre, bien évidemment. Nous avions eu, la dernière fois, nous avions lu le passage sur Caïn et Abel. Donc Caïn qui commence à être envieux, jaloux d'Abel, parce que Dieu a aimé plus ce qu'Abel avait offert. Et donc Caïn, par envie, va se mettre en colère et va le tuer. Donc le lien entre la colère et l'envie. Le psaume 10 est très clair, le Seigneur n'aime pas la violence. Comme nous avons vu pour les autres vices, ici aussi mes frères, la mentalité du monde est aux antipodes de la foi chrétienne. Parce que pour le monde, celui qui ressemble à un lion, qui sait s'emporter, qui sait s'imposer par la peur de sa colère, est considéré le plus fort, est considéré celui qui a du caractère, dit-on. Alors que celui qui ressemble à un agneau, qui est doux, est pris pour un faible, un incapable, quelqu'un qui manque de caractère, dit-on. Attention pour ne pas introduire cette mondanité dans nos communautés chrétiennes. Pour nous, le Messie, lion pour vaincre, se fit agneau pour souffrir. Et dit Jésus dans le serment sur la montagne, « Heureux les doux, car ils posséderont la terre. » Alors que le coléreux est toujours tourmenté à l'intérieur, toujours insatisfait, jamais en paix. On n'imagine pas du côté du coléreux combien il est tourmenté par sa colère. Si tout le met en colère, il est tourmenté dans son âme, dans son esprit. Bien sûr, attention, parfois, nous pouvons aussi susciter la colère de l'autre par nos propos, nos ragots, en un mot, par la langue. Souvent dans la Bible, surtout dans la lettre de Saint Jacques ou dans le livre du Siracide, appelé aussi Ecclésiastique, on nous met en garde contre la puissance destructrice d'une langue venimeuse. La langue, nous dit Saint Jacques, c'est un passage très intéressant, très amusant, il dit, c'est les plus petits muscles peut-être du corps, et pourtant, elle est capable de faire des ravages à travers la médisance, à travers la calomnie, à travers les insultes. Donc, il nous met en garde contre cette puissance destructrice d'une langue venimeuse. Il faut savoir la contrôler. Et nous pouvons aussi aborder la relation de la colère avec les autres vices capitaux, comme nous avons fait par ailleurs avec les autres vices. Nous avons vu que les vices sont en relation les uns avec les autres. Pour la colère, ce n'est pas différent. Les autres vices jouant souvent le rôle de cause, de motivation, d'élément déclencheur de la colère. Par exemple, l'orgueil. L'orgueil qui est à l'origine de tout péché, il s'est mêlé partout, nous avions vu. On se met en colère par un sentiment d'orgueil blessé, de déshonneur, de manque de respect envers nous. On ne me traite pas comme ça et on se met en colère. Pour montrer notre supériorité, je vais me mettre en colère pour montrer ma supériorité, pour imposer nos opinions. L'envie, la jalousie, j'ai déjà dit, est souvent aussi la cause de notre colère. L'avarice, avec la soif de posséder, combien de disputes pour une question d'argent, d'héritage, pour un salaire estimé injuste, le sentiment d'être arnaqué. La gourmandise, je ne parle pas d'avoir raison, d'avoir tort, je parle juste de la réaction, de la colère face à ces événements-là. La gourmandise aussi, surtout celle de la boisson alcoolique et la drogue, ravive souvent la colère. Peut-être que j'avais une petite colère et sous l'effet de l'alcool, cette colère peut devenir meurtrière, nous le savons très bien. Elle a un effet d'augmentation, l'alcool, sur la colère. Il met l'homme hors de lui jusqu'à commettre des crimes. La luxure aussi. Quand je ne peux pas avoir le plaisir que je désire, ou quand j'ai peur de perdre ce plaisir, je peux être dans un état de colère. Vous voyez ? Alors, mes frères, regardons d'un autre côté les remèdes que Dieu nous donne contre cette colère. Un des remèdes, c'est la prière du cœur. Jésus-Christ, fils de David, prends pitié de moi, pécheur. Jésus-Christ, fils de David, prends pitié de moi, pécheur. Cette prière du cœur, répétée à longueur de journée, même quand on a des insomnies à longueur de nuit, cette prière nous apaise l'esprit, nous fait raisonner, nous fait sortir de cet état de colère. L'humilité, bien évidemment, est un autre remède. Les fruits de l'esprit qu'est la maîtrise de soi, savoir se maîtriser. La demande de pardon, le pardon donné, le pardon reçu, autant de remèdes contre la colère. La vertu cardinale de la tempérance, vis-à-vis de la boisson, par exemple. La patience envers l'histoire, envers les autres, mais aussi la patience envers toi-même. La connaissance de soi toujours plus fine. Ça, c'est très intéressant pour tous les vices d'ailleurs, mais notamment pour la colère. Une conscience de soi toujours plus fine. Je peux, après des années où j'ai vu que je me mets en colère, je peux commencer à repérer quand me mets-je en colère généralement. Qu'est-ce qui la déclenche le plus souvent? Donc, je commence à me connaître. Ou quelle personne la déclenche? Parfois, il y a des personnes, parfois, il y a beaucoup de monde qui ne nous mettent pas en colère, mais il y a une ou deux personnes qui nous mettent toujours en colère de par leur façon de parler, de se comporter, etc. Surtout, pensez à la grande patience que Dieu a eue envers toi et tout ce qu'il t'a pardonné. Car souvent, ce que l'autre nous a fait, c'est une bagatelle à côté de ce que nous avons fait contre Dieu et qu'il nous a pardonné gratuitement. Vous vous souvenez de la parabole du débiteur et pardonné, qui n'a pas voulu pardonner son confrère. Lui, il était débiteur de 60 millions de pièces d'argent. Et Dieu lui a pardonné tout gratuitement d'un coup, le maître. Nous savons que c'est Dieu, mais dans la parabole, c'est le maître. Mais ensuite, il ne veut pas pardonner son frère qui ne lui doit que 100 pièces d'argent. 60 millions d'un côté, 100 pièces d'argent. Il ne veut pas pardonner. C'est bien sûr une image de chacun d'entre nous quand nous ne voulons pas pardonner l'autre qui nous a fait parfois, qui a eu un regard de travers, une parole maladroite, je ne sais pas moi, des choses qui sont souvent si petites qu'on ne veut pas pardonner. Et alors que Dieu nous a pardonné 60 millions de pièces d'argent, c'est-à-dire tous nos péchés, gratuitement, dans le sang de Jésus-Christ.
Thank you.
Bien, mes frères, nous parlons donc de la colère. Et je voudrais mettre en garde, à la suite de Saint François de Sales. Saint François de Sales, un grand saint de l'Église, docteur de l'Église, qui a vécu à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle. Saint François de Sales, qui est un connaisseur vraiment très fin de la psychologie de l'âme humaine, il nous alerte contre la colère, contre la colère qu'on peut avoir envers nous-mêmes parce qu'on s'est mis en colère. Regardez un peu, c'est très fin, c'est pas compliqué, mais je pense que ça peut nous arriver à tout un chacun. Donc, il nous alerte contre la colère qu'on peut avoir envers nous-mêmes parce qu'on s'est mis en colère. Donc, je me suis mis en colère contre quelqu'un d'autre ou à cause de telle ou telle situation. Et ensuite, quand la réaction est passée, quand je me suis calmé, je me mets en colère contre moi-même d'avoir eu ce sentiment avant, cette réaction avant. Il dit que ça ne fait qu'entretenir le vice. C'est une colère de plus. Ça entretient le vice capital de la colère. C'est un cercle vicieux. Le mot y est, justement. En fait, s'accepter, accepter sa faiblesse, demander pardon si nécessaire, si ta réaction était disproportionnée, démesurée, réparer les dégâts si nécessaire et autant que possible. Parfois, la colère a amené des dégâts, donc les réparer. Valent beaucoup plus, tout cela vaut beaucoup plus que de s'en vouloir ou se détester soi-même. Ça ne sert à rien que d'être dans de remords infinis parce qu'on a péché de colère, etc. Le repentir chrétien, mes frères, n'est jamais le remords. Il est paisible. Le repentir chrétien, quand on a péché, ça sert à tout péché, mais surtout la colère ici, en l'occurrence. Le repentir chrétien est paisible et il s'ouvre à la miséricorde et à la possibilité d'une vie nouvelle. Après une courte tristesse, nous dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens, après une courte tristesse à cause du péché, le repentir apaise l'âme au lieu de la torturer, alors que le remords, nous le savons tous, torture l'âme et l'esprit. La haine de soi n'est au fond qu'une expression de l'orgueil, finalement. Te croyais-tu parfait ?
Alors, est-ce que, parce que dans certains passages de l'Ancien Testament, on pourrait penser que Dieu se met en colère lorsque Dieu peut se mettre en colère, et nous-mêmes, est-ce qu'il existe une sainte colère entre guillemets ?
Alors, c'est intéressant, précisément, parce que si nous parcourons les Écritures, nous verrons que celui qui se met le plus souvent en colère, entre guillemets, comme vous dites, c'est Dieu. C'est Dieu. Rien que le psaume 94, avec lequel toute l'Église se réveille tous les matins, on dit « Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos ». L'Église se réveille en chantant ce psaume 94, si aujourd'hui vous écoutiez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et dans ce psaume, il est dit « Dans ma colère, j'en ai fait le serment, jamais ils n'entreront dans mon repos » à propos du peuple dans le désert qui avait murmuré pendant 40 ans, qui avait mis Dieu à l'épreuve. Cette colère de Dieu, évidemment, n'est pas du tout un péché, déjà, parce que c'est Dieu, et car d'une part, ses raisons sont bonnes et justes, et d'autre part, elle n'est pas démesurée. Au contraire, Dieu, l'Exode nous le dit, est lente à la colère, plein d'amour et de tendresse. Pour ce qui est de la colère de Dieu, nous le savons, c'est parce que sa sainteté ne peut pas tolérer le péché, surtout l'idolâtrie, donc d'attribuer à d'autres réalités, personnes, choses, argent, travail, à d'autres réalités, ce qui appartient à Dieu. Donc Dieu ne peut pas tolérer le péché, surtout l'idolâtrie et les injustices contre le prochain. Elle est une expression de sa justice, cette colère entre guillemets de Dieu est une expression de sa justice. Nous savons aussi que cette colère, Jésus l'a prise sur lui, sur la croix. En nous faisant miséricorde et en nous réconciliant avec Dieu, toute cette colère de Dieu, cette coupe qui était réservée aux pécheurs pour qu'ils la boivent jusqu'à la lie, nous dit les psaumes, cette coupe de la colère de Dieu, c'est Jésus qui l'a bu tout entière sur la croix, en prenant sur lui, sur ses blessures saintes, sur ses plaies glorieuses, sur le coup de lance qu'il a reçu de son côté, c'est lui qui a tout pris pour que nous puissions être objet de miséricorde. Saint Paul dit dans une de ses lettres, nous qui étions des vases de colère, c'est-à-dire objet de colère, c'est une expression de l'époque, de langage, nous étions des vases de colère, nous sommes devenus des vases d'élection, de miséricorde, objet de l'amour de Dieu. Jésus-Christ foule et a été foulé tout seul dans la cuve de la colère de Dieu, comme nous dit l'Apocalypse, à ma place et à ta place. Maintenant, nous avons la liberté d'accueillir cette miséricorde et de nous convertir, ou bien de continuer à être objet de la colère à venir. Et pour parler de sainte colère, le doux Moïse, lui aussi l'homme le plus doux, le plus humble sur la terre, Moïse, se met en colère contre le peuple, lui aussi, en voyant le veau d'or, en voyant que le peuple, il n'est resté que 40 jours sur le mont Sinaï, et quand il retourne dans la plaine, le peuple avait fabriqué un veau d'or. 40 jours ont suffi pour que le peuple oublie Dieu. D'autres personnages de la Bible aussi se mettent en colère. Et ce n'est pas juste l'image de l'Ancien Testament, comme on pourrait dire dans l'Ancien Testament, des personnes comme Moïse. Non, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste crie à l'engeance de vipères que sont les pharisiens. Si ce n'est pas de la colère, engeance de vipères, il dit aux pharisiens. Qui vous a enseigné à fuir la colère à venir ? Dit Jean-Baptiste. Jésus se met en colère, toujours entre guillemets, parce que les mots, nous avons vu depuis le début de ces émissions, les mots nous piègent. Parfois, les mots ont plusieurs sens. Il y a une polysémie qui peut nous faire confusion, prêter à confusion. Jésus se met en colère en chassant les vendeurs du temple. Il jette un regard de colère sur les pharisiens, nous dit la parole de Dieu. Il s'emporte quand on dit qu'Hérode veut le voir. On dit tout simplement Hérode veut te voir, et Jésus répond, allez dire à ce renard, etc., etc., etc. Vous voyez ? Saint Paul aussi, d'ailleurs, Saint Paul s'emportait contre les Athéniens, contre les Juifs, contre les Galates, même avec Saint Pierre, si vous lisez la lettre aux Galates, vous allez voir Saint Paul déjà qui écrit aux Galates en disant, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, qui vous a trompé en vous faisant passer de la grâce, de la foi à une loi inutile qui ne peut pas apporter le salut. Mais Saint Paul se met en colère contre Saint Pierre. À l'époque, il y avait donc cette querelle, est-ce que les nouveaux chrétiens venus du paganisme devaient obéir aux lois juives, surtout aux lois de nourriture, les lois alimentaires, oui ou non? Et évidemment, ils ont compris que non, ils étaient délivrés de cette loi d'animal pur ou impur, etc. Et donc, Saint Pierre, quand il était avec les Galates et Saint Paul, il mangeait comme tout le monde, il mangeait de tout. Sauf qu'il y avait un petit groupe de Juifs qui arrive dans la salle et Saint Pierre change de table, nous dit Saint Paul, change de table pour faire penser qu'il ne mangeait pas avec les païens alors qu'il le faisait quelques instants auparavant. Donc Saint Paul se met en colère en disant « Mais pourquoi tu dois faire semblant ou tu dois changer ?» Non, nous devons être fiers du fait que le Christ nous a libérés de cette loi, etc., etc. Donc Saint Paul se met en colère contre beaucoup de monde, y compris Saint Pierre. Dans la lettre aux Romains, Saint Paul va dire que les autorités civils, en faisant la justice, en appliquant la justice, ils montrent la colère de Dieu contre ceux qui font le mal. Quelque part, c'est les bras de Dieu contre ceux qui font le mal. Très intéressant, chapitre 13 de la lettre aux Romains. En fait, ce n'est pas vraiment de la colère en tant que péché, vous l'aurez compris, mais c'est dire la vérité ou agir pour la vérité ou la sainteté de Dieu, tout simplement. Imaginez par exemple quelqu'un qui voit un scandale, qui voit quelque chose qui ne va pas du tout, des choses très graves. Je ne pense pas que sa réaction va être tout douce de dire « oui, s'il vous plaît ». Non, peut-être qu'il va réagir en voyant dans une famille, dans une société, au travail, une situation qui ne va pas du tout. Évidemment, il va élever sa voix, il va réagir d'une façon ferme. Mais ce n'est pas un péché, tout simplement parce que ce n'est pas démesuré. Et deuxièmement, la raison est très juste, puisque ce qui est en cause, c'est la vérité, la justice ou la sainteté de Dieu. Donc le zèle pour Dieu et le zèle pour le salut des autres peut nous amener à parler avec force, vivement, avec parésia, comme disait le grec, ou agir de la même manière. Quand on dit « j'ai parlé ou j'ai agi avec les tripes », vous voyez ? On est d'accord que c'est tout autre chose que d'agir par orgueil blessé, par jalousie, par caprice. N'est-ce pas? Donc je voudrais compléter cette émission avec quelques références de la parole de Dieu Par exemple, plusieurs passages du livre des Proverbes, « Ne fréquente pas les coléreux, n'approche pas l'homme irascible, sinon tu prendras leur manière, tu seras pris au piège. L'homme impatient fait des sottises et l'intrigant se rend odieux. L'homme patient a du discernement, l'impulsif arbore sa folie. Un homme irascible provoque la querelle, un homme patient apaise la dispute. L'insensé à toute heure exprime ses humeurs, le sage a du recul et les tempère. En coléreux provoque des querelles, en fou furieux multiplie les crimes. » Ou alors saint Paul dans la lettre, première lettre à Timothée, chapitre 2, « Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains saintement, sans colère ni dispute. » C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous prions les mains élevées. Vous voyez, quand on prie, on lève les mains pour prier, des prières spontanées ou les Notre Père, c'est pour montrer à Dieu, je n'ai pas de colère, je n'ai pas de disputes, je n'ai après personne, je n'ai pas de rancune, et donc mes mains sont propres, elles ne sont pas pleines de sang, c'est-à-dire de la rancune, de la haine. Donc prier les mains levées, les mains propres, comme le dit saint Paul. Et saint Paul, c'est là aussi lui dont je vous ai dit qu'il avait un tempérament très vif. Saint Paul dira, « Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, nous avions déjà vu, mais il continue, « Ne donnez pas prise au diable, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche, mais s'il en est besoin, que ce soit une parole bonne, constructive, profitable à ceux qui vous écoutent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Bonne journée à tous.